Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite bienvenue sur la saison 2 du podcast Le futur, c'est maintenant. Pour cette nouvelle saison, je vais aller à la rencontre d'acteurs majeurs en France, mobilisés pour l'éducation, l'insertion professionnelle et l'innovation RH. Un seul objectif, leur donner la parole le temps d'une heure pour faire rayonner leurs initiatives en faveur de l'emploi. Je m'appelle Paul Foutrel, je suis entrepreneur et cofondateur de l'entreprise Grim. Et comme vous le savez déjà, notre raison d'être, c'est de faciliter l'accès à l'emploi pour toutes et tous, avec un brin de technologie. Je vous souhaite évidemment une belle écoute. Salut Cyril, bienvenue sur cet épisode du podcast Le futur c'est maintenant. Donc je suis avec Cyril Pierre de Gueyère. Je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode. Aujourd'hui on est à Station F, on a un petit bureau avec mon équipe. Et pour la petite anecdote, je crois que Cyril était un peu un cancre à l'école, si je ne me trompe pas.
Ah non, pas un cancre, mais j'ai fait 6 collèges et lycées, je détestais l'école. Et en vrai, je m'en suis rendu compte après, c'est que c'est pas assez les mains dans le cambouis, c'était trop de théorie. Et aussi, je me suis rendu compte après que j'étais au potentiel et que je comprenais les choses tout de suite. Et je ne comprenais donc pas pourquoi le prof répétait. Et voilà, j'étais pas adapté, hein. Et du coup, ce qui est marrant, pour la petite anecdote que je t'ai dit juste avant qu'on commence, c'est que je me suis souvenu après coup m'être dit quand j'étais petit que je ferais comme le virus, je n'aimais pas l'école et j'allais faire comme le virus, j'allais l'attaquer de l'intérieur. Et c'est ce que j'ai fait avec Rocket School et l'école Gustave, dont on va certainement parler.
C'est top. Donc effectivement, tu es le fondateur, le cofondateur d'ailleurs de Rocket School et de l'école Gustave. Et avant de lancer tout ça, moi je suis curieux de savoir ton parcours professionnel. Et puis au-delà du lycée, du collège où tu étais un peu turbulent, qu'est-ce que tu as fait comme études supérieures, Cyril ?
Écoute, j'aimais beaucoup le business et la tech et l'informatique. Et j'ai pas mal hésité. Un conseiller d'orientation m'a dit tu devrais d'abord faire de l'informatique parce que c'est quand même long à prendre en main, alors que le business, il y a un côté un peu plus humain, tu pourras peut-être sur le tard y aller. Et du coup, c'était un bon choix parce que j'ai fait une école qui s'appelle Epita et c'est là que j'ai commencé à m'éclater à l'école. Le premier jour où on est arrivé, on nous a donné des cours pendant un quart d'heure et on nous a dit faites MAN, le nom d'une fonction. MAN, c'est en informatique, c'est pour avoir accès au manuel. Et on a dû apprendre à se débrouiller tout seul. Et en gros, pendant un mois, avec ce format de piscine qu'on connaît maintenant chez Epitech et 42, c'était en mode bourrin. On bossait genre 12 à 14 heures par jour. Je me rappelle, vers 10 heures, 22 heures, ils mettaient des énormes enceintes avec de la techno et on codait avec les mouvements de doigts en même temps que la techno. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce modèle Montessori, les mains dans le cambouis. Donc j'ai fait Epita, d'étudiant plutôt à faire le minimum, j'ai fini vice-major d'Epita, adoré ça. J'ai créé une première boîte dans le conseil informatique.
Tout de suite, t'as pas pris de job en CDI.
Alors en vrai, ce qui s'est passé, c'est comme Epita, c'est une école qui était un peu chère et que je déteste devoir de l'argent, je me suis mis à la junior entreprise et j'ai fait un petit emprunt et je me suis mis à la junior entreprise. Donc quand j'ai fini Epita, la troisième année, j'avais déjà bossé dans une cinquantaine de boîtes via la junior entreprise. Et du coup, naturellement, je me suis dit, je vais continuer avec un de mes collègues, Romain Bourdon, à l'époque. Je vais faire ce que je faisais, mais via une boîte. Donc, on a créé une première boîte qui était une web agency. Alors aujourd'hui, les agences 360, tout le monde connaît. Mais en 2001, quand j'ai fini, c'était le switch du monde de l'impression au monde d'Internet. Et donc, du coup, c'était tout nouveau. Donc ça a super bien marché. Après, on a revendu cette boîte, on a fait une boîte de formation.
T'as vendu une boîte à quel âge du coup ?
J'ai revendu une boîte, on devait avoir 25 ans. Mais là, c'était des petites sommes à cette époque-là.
C'est la classe quand même.
Mais c'était pas mal, on était contents. Et j'ai créé une boîte qui s'appelait Anaska, qui faisait de la formation informatique. J'ai écrit plusieurs bouquins sur PHP, qui est un langage informatique qui est un peu has-been maintenant, mais qui à l'époque était très, très tendance et très utile en tout cas. Et cette boîte de formation informatique, on l'a revendue en 2008, quelques millions d'euros, au groupe Econocom. Et là, je me suis retrouvé après une phase d'earn-out. Souvent, quand on vend une boîte,
obligé de rester un petit peu dans...
On touche une partie à la signature, on doit rester un an, deux ans. Et je me suis retrouvé à 30 ans, avec plus d'un million en banque, à me dire qu'est-ce que je fais de ma vie.
Ouais, un bon problème, non ?
C'était un bon problème.
Assez anxiogène, peut-être.
À cet âge-là, tu as l'impression que c'est le bout du monde. En vrai, ça reste des très grosses sommes.
Bien sûr.
Et du coup, j'ai fait un tour du monde.
En bateau ?
Non, je suis allé en Amérique latine. À l'époque, je dansais beaucoup le tango et j'ai cherché un fil rouge.
Ok.
Donc, je me suis dit, je vais faire le tour de toutes les milongas d'Amérique latine. Donc, les milongas, c'est des bals tango. Et en vrai, j'ai adoré pendant deux mois. Et le troisième mois, j'ai commencé à m'embêter un petit peu. Et je me souviens, au bout de 3 mois, j'étais dans un bus. Alors là-bas, il n'y a pas de train, donc tu es dans des bus avec des énormes fauteuils. Et j'étais avec mon micro-ordi en train de faire le business plan de ma prochaine boîte. Et là, je me suis dit, bon, écoute Cyril, tu n'es pas fait pour être sur un modèle contemplatif. Tu as besoin d'être dans l'action, donc rentre en France et crée ton projet. Mon projet, c'était de créer une sorte de comme le wagon, qui n'existait pas encore à l'époque.
Une école de code. En
plus. Une école de code en mode 3 mois, bootcamp, etc. Et je suis rentré, j'ai commencé à bosser sur ce projet. Et j'ai reçu un coup de fil d'un mec qui s'appelle Nicolas Sadirac, qui était le patron, le directeur général d'Epitech, qui après a créé 42. Et Nicolas m'a dit, écoute Cyril, j'ai besoin d'aide sur Epitech, on a 2000 étudiants, je voudrais qu'on monte à 5000, enfin il m'a parlé de tous les projets, je trouvais ça génial. Et je me suis dit, est-ce que tu crées ta boîte et tu as un petit impact, ou est-ce que tu rejoins Nicolas sur Epitech et tu as un gros impact? Et comme j'avais déjà gagné pas mal d'argent, je me suis dit, bah écoute, rejoins Nicolas et lance ton truc. Donc c'est ce qu'on a fait. Pendant 7 ans, j'ai été numéro 3, puis numéro 2, et ensuite j'ai dirigé des exécutifs MBA pour le groupe.
C'était quoi comme type de formation du coup en exécutive MBA?
Alors, on a lancé, donc déjà
j'ai... Les métiers à la sortie, je suis curieux de savoir.
Très rapidement, on a lancé, donc j'ai lancé, avec Nicolas Sadirac sur Epitech, on a poussé ça, on a fait plein de projets ultra sympas, puis Nicolas, il est parti créer 42.
D'accord, ok.
Donc moi, j'ai beaucoup hésité à le rejoindre, mais je venais juste de lancer ce qu'on appelle un executive MBA pour Epitech. Et en fait, un executive MBA, c'est une formation qu'en général, tu fais entre 30 et 45 ans.
Enfin, après ça peut quelques être... années d'expérience pro.
Voilà. Par exemple, le jour où tu es directeur commercial, c'est quoi ton next step? Eh bien, le next step, c'est d'aller au COMEX, au comité de direction de l'entreprise. Mais pour ça, tu as besoin de comprendre tous les métiers. Quand tu es directeur commercial, tu es bon, tu sais vendre. Par contre, les chiffres, la finance, tu connais un peu, le marketing un peu, la tech, pas du tout, la stratégie, pas plus que ça. Et donc, un executive MBA, tu le fais pour passer une étape de vie. Et donc, on l'avait fait pour Epitech, pour tous les CTO, les directeurs informatiques, pour leur permettre de comprendre, au-delà de la tech, les métiers du marketing, du commerce, de la finance, de la stratégie, etc.
Du coup, je suis curieux de savoir comment tu allais chercher les premiers candidats.
Les premiers candidats, moi j'adore le business, hein, et bah, du coup je suis allé voir les anciens, je suis allé avec mon bâton de pèlerin chercher les 24 premiers candidats, c'est quand même une formation qui coûtait 20 000 euros,
et financée
en partie par l'État.
D'accord.
Et on a eu des gens comme le CTO de Vente Privée, on a eu le CTO de Rentabiliweb, de pas mal de belles boîtes qui avaient fait Epitech, et donc je suis allé avec mon bâton de pèlerin les chercher. Et juste quand ça s'est lancé, c'est là que Nicolas est parti créer 42. Et moi, j'ai beaucoup hésité à le suivre parce que c'était génial, surtout au début comme aventure. Et en même temps, j'avais 24 Gus là qui m'avaient signé sur l'executive MBA, sur ma bonne tête et sur ma parole. Et du coup, j'ai pris le pari de me dire, bon, bah écoute, continue à gérer Epitech, l'executive MBA, prends le pari que le futur directeur général, tu t'entendras bien avec lui, pari raté. J'ai voulu rester. Et donc, je suis resté. On a développé l'executive MBA. On a fait des partenariats avec HEC. Donc, on a fait bosser des Epitech et des HEC pendant 3 mois ensemble. On a fait plein de trucs. Ce qui m'a d'ailleurs amené à devenir prof affilié HEC depuis une dizaine d'années. Et tout ça jusqu'à il y a 6 ans. Et en vrai, ce qui s'est passé, j'adore Epitech, j'adore HEC. Mais Epitech, c'est 8 000 euros par an et HEC, c'est 25 000 euros par an. Donc, tu es sur des écoles d'excellence, mais pas forcément très inclusives. Et j'ai fait ma crise de la quarantaine, il y a 6 ans, bientôt. Et je me suis dit, j'adore ces écoles, mais elles ne sont pas assez inclusives, il faut que je fasse quelque chose.
Ça a été ton why, quoi. Ça a été ton
c'était un peu
pourquoi
le...
tu voulais te lancer, quoi, sur ton expérience suivante.
Qu'est-ce que t'en... Alors, en même temps, ça faisait quelques années, donc il y a aussi la routine qui ne me plaît pas. Mais voilà, je me suis dit, on regarde le monde qui est autour de nous et par plein d'aspects, il est génial, mais par plein d'aspects, franchement,
il y a énormément d'inégalités.
Il y a des inégalités, il y a des guerres à nos portes, c'est très dur. Et moi, je me suis dit, si toi tu fais rien alors que tu as l'argent, tu as les réseaux.
Bonjour à tous, c'est Noémie en charge du montage du podcast. Comme vous vous en doutez, on a encore eu un petit problème de micro. Pour cet épisode, mais c'est pas grave, on a racheté un nouveau micro pour ne plus avoir ce problème justement dans la saison 2. Dans cette partie coupée à cause du micro, Cyril évoquait comment il identifiait les talents en reconversion grâce à des tests de personnalité pour avoir des profils en adéquation avec ses formations. Et du coup, dans la deuxième partie du podcast, il va évoquer les attentes des recruteurs. Donc je vous laisse avec cette deuxième partie.
Recruteurs, en fait, on va leur demander un peu leur panier du Père Noël. On leur dit, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent faire, etc. Et si, qu'ils fassent ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un rôle de matcheur, hein, de ouais. cabinet de recrutement, où on va dire, tiens, telle personne, avant, elle était dans une boîte qui bosse dans le luxe, la fille est brésilienne, donc elle parle brésilien parfait, ouais. et là, la boîte, elle cherche ça, hop, on vous met ensemble. Mmh. Et c'est une grosse partie de notre boulot, hein, la partie matching. Mais parce en tout cas, ce qui est sympa, ouais. c'est qu'on va chercher des gens qui, sur le papier, n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Mmh. Elles ont des valeurs communes.
Globalement, quand je vois des biz dev ensemble, bah, ils font du boucan. Ouais. Quand je vois des growth hackers, growth marketing, marketing digital, on cherche des gens beaucoup plus avec un brain, une capacité à réfléchir, à tester un peu les choses, mais ce n'est pas des boucans naturellement. Mmh. Donc eux, ils vont être beaucoup plus « bonjour Cyril ». Si je vois ouais. des biz dev dans la rue, « hey, salut, ouais. ça va ?»
Plus extraverti.
Ouais. Et c'est, du coup, c'est rigolo. Et les customer success, c'est marrant. Pour le coup, c'est que des gros nounours sympathiques. Ouais, là, quand tu veux faire du relation client, t'as que des gens qui ont envie d'aider les autres, qui ouais. sont gentils ouais. et ils sont trop mignons. Là, j'étais à l'école là, tout à l'heure, ils sont fait des petits mots. Tu sais, comme dans, à ta boulangerie, tu peux prendre les petites annonces et il y a marqué bon pour un câlin ou bon pour une ouais. bonne pensée. Et ils se sont mis des petits mots comme ça. Quoi. Ouais. C'est vraiment des gros nounours et c'est trop mignon. Ouais. Parce qu'on leur trouve un boulot où ils ont toutes les chances de réussir et être heureux.
Ouais. Non, c'est top. D'allier l'utile et l'agréable comme ça, c'est hyper important. Et du coup, sur ces candidats-là, tu fais un peu de. Tu facilites le matching, la rencontre hein, finalement entre le recruteur et le candidat, avant même qu'il ait finalement presque. Qu'il se soit formé, si c'est je ne me trompe pas. Et c'est quoi le pourcentage de candidats qui trouvent par eux-mêmes une alternance, une entreprise? Il y en a quand même, j'imagine. Parce que tu les aides, c'est une chose, c'est important. Mais d'un côté, savoir se vendre, savoir candidater tout au long de sa vie, ça me paraît, moi, personnellement, fondamental. Est-ce que tu les aides dans cette démarche-là et est-ce que tu peux me partager ta vision des choses?
Alors, on a deux approches. On a l'approche reconversion mm-hmm. où on les aide fortement, on leur donne un peu les billes pour trouver, mais c'est globalement nous qui allons les positionner.
D'accord.
Et l'autre approche, c'est poursuite d'études. Mm-hmm. Et là, on est plus dans le coaching pour leur apprendre à se vendre. Là, typiquement, on a une promo en ce moment de BizDev. Je suis allé sur le profil LinkedIn de certains d'entre eux. Il y en a la moitié, c'était pas bien. Tu vois, ouais. je leur ai dit, mais c'est votre CV. Et du coup, on leur donne un peu les éléments ouais. Visuels, les éléments de discours pour qu'ils se mettent bien en avant, qu'ils soient plus efficaces. Donc, il y a une partie coaching, effectivement, qui est plus dure, qui est moins connue par les jeunes. Quelqu'un qui est en reconversion, il sait déjà un petit peu faire.
Ouais.
Quelqu'un qui est en reconversion, ce qui est plus dur pour lui, quelqu'un,
c'est
notre cible...
C'est peut-être confiance en lui, non?
Exactement. Ouais.
Parce quelqu'un qui est au chômage depuis 6 mois. La qualité d'une personne quand tu arrives en entretien, c'est qu'elle ait confiance en elle.
Bah, faut avoir confiance en soi. C'est, ouais. Faut connaître le métier. Mais quelqu'un qui est au chômage depuis plus de 6 mois, au bout de 6 mois, tu commences à douter. Et tu t'es pris des murs et des murs, bah, tu es en situation à ne plus croire en toi. Donc nous, il y a une grosse partie de confiance ouais. sur lesquelles on les coach. Et c'est pour ça que typiquement, ceux qui commencent chez nous, un des premiers trucs qu'on leur dit, vous faites partie des 10% qui ont candidaté. Mm. Pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas là par hasard. Et du coup, ils en sont fiers. Et on leur dit, par contre, il va falloir que vous le méritiez maintenant. Il va falloir que vous prouviez qu'on ne vous a pas pris pour rien, vous, ouais. juste là.
Et tu les mets dans un état d'esprit de challenge déjà dès le premier jour.
C'est ça. C'est ce qu'on essaye de faire. Et après, bon, de toute façon, le métier d'éducation, c'est un des plus beaux métiers du monde. Mais on sait que ce n'est pas facile. Au début, les gens sont à fond. Ensuite, il y a la plaine de la mort où ils commencent à fatiguer. C'est là qu'on leur dit, là, c'est normal,
comme
vous êtes fatigués.
Comme le sport de haut niveau, comme le kitesurf.
Exactement.
Moi, je fais du surf et tu sais, il y a un moment, tu passes un palier et tu stagnes.
Et c'est dur.
Soit tu abandonnes et c'est dommage, ou soit tu persévères et puis c'est à ce moment-là que tu passes un palier.
Exactement.
Et tu t'éclates.
Quoi. Et bah pour faire la comparaison, on leur parle souvent du sport. On leur dit, bah nous, ce qu'on va attendre de vous, si vous savez faire 10 pompes, c'est de faire la 11e.
Ouais.
C'est, si vous avez en faire une, bah c'est d'en faire deux.
Ouais.
Et l'idée, c'est juste vraiment le dépassement de soi qu'on essaye de glorifier. Typiquement, on a des challenges très opérationnels où les commerciaux ils bossent pour des vraies boîtes, des boîtes partenaires. et ils prennent des rendez-vous. Et ceux qui gagnent, en fait, on les prend en photo. Mm-hmm. On a un petit Polaroid, on le met dans le Wall of Fame. Ouais. Et depuis les premières promos il y a 5 ans, on a tout le Wall of Fame des Parisiens, il y a plein de photos. Et en fait, au début, ils se disent ils s'en foutent, mais après, ils sont fiers d'y être, tu vois. C'est sympa. Donc, on gamifie le truc, quoi.
Ouais, c'est top. Et c'est un peu l'école de la vie, en fait.
Ouais, après, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est très, très, très pratique, quoi. Pratico-pratique, c'est Montessori pour les gamins, le learning by doing, la méthode par le projet. Ça ne correspond pas à tout le monde. En fait, notre système éducatif, tu ne peux pas avoir un système qui correspond à tout le monde. Il y a des gens, ça ne leur irait pas. Ouais. Tu as des gens, ils ont besoin de faire de la théorie, de réfléchir à des sujets, et c'est très bien. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir les mains dans le cambouis, bah c'est à eux qu'on s'adresse.
La communauté aujourd'hui de Rocket School, c'est combien d'apprenants ? Tu les appelles les apprenants, c'est ça ?
C'est marrant, on a un hashtag, c'est la Rocket Family.
La Rocket Family.
Et on a 3000 personnes qui sont passées par Rocket depuis 5 ans. Et là, on accélère. Là, cette année, on fait 1500 personnes. Donc, on a des objectifs d'aider le plus de monde possible. Et ce qu'on a aussi avec l'école du SAV, dont on pourra parler, qui forme le métier de plomberie, électricité et couvreur, c'est vraiment l'idée. Je trouve qu'en France, on a plein de talents, et c'est d'aider ces talents à trouver la boîte où ils vont à la fois être bons, mais aussi être heureux. Parce que c'est un des problèmes qu'on a en France, hein, l'orientation, c'est super dur. Quand on est jeune, on ne connaît pas Growth Hacker, les CSM, les jeunes ne savent pas ce que c'est.
Ouais, alors qu'il y a plein de boulot. Des fiches métiers un peu à droite à gauche, on a besoin.
Des métiers, il y en a tellement de métiers, de formations.
Quand on est à l'école, d'aller voir le conseiller d'orientation, alors je ne sais pas ce qu'il en est en 2023, mais nous à l'époque, c'était pas incroyable.
Il ne peut pas connaître les métiers, tu ne peux pas. C'est comme quand tu vas voir Pôle emploi, ils ne peuvent que être généralistes, tu vois, il y a tellement de métiers, tu ne peux pas demander au conseiller Pôle emploi de base, dis-moi c'est quoi le métier de CSM, et puis après tu vas lui demander un métier d'électricité bien spécifique, tu vois.
Ouais.
Donc,
il y a un vrai rôle.
C'est pas facile. Je pense qu'on a un vrai problème en France, dans le monde, sur l'orientation. Et je trouve que les soft skills sont intéressants parce qu'ils te permettent de fermer des portes. Si tu n'aimes pas du tout aller voir les gens, eh ben, ok, tant pis, tu t'es fermé les métiers où tu es en contact. Et plutôt que d'avoir 3000 métiers en face de toi, tu n'en as plus que 800.
Et ça, il faut avoir la... Soit tu te fais aider, soit tu as la présence d'esprit de dire, tiens, je veux faire mon petit diagnostic un peu compétences interpersonnelles et pas juste les hard skills, les diplômes, pour trouver ton travail. Mais peut-être qu'on n'est pas non plus suffisamment... on ne nous partage pas suffisamment les choses à l'école sur ces sujets-là.
Ouais, je trouve ça très difficile. On regarde peut-être
trop le programme pour avoir son diplôme et trouver un travail en lien avec son programme et son diplôme, alors que le recrutement, parfois, c'est très irrationnel. Tu peux avoir un candidat qui vient sur... sur du marketing, de la com, et finalement tu sens qu'il a la tchatche et qu'il peut poser des questions, qu'il a une bonne écoute active, et tu dis bah tiens, peut-être qu'au commerce tu seras bon. Et moi je sais que pour discuter avec beaucoup de gens dans le recrutement, c'est difficile ce système de matching et le recrutement, on me dit souvent que c'est assez irrationnel.
Clairement, ça c'est l'évolution ensuite en entreprise, quand tu es dans une boîte où si une boîte où il y a des opportunités, c'est génial parce que du coup tu vas pouvoir évoluer dans la boîte. Nous, vraiment, l'idée, c'était le premier pas qui n'est pas évident.
Ouais.
Et on espère avoir un petit impact.
Déjà, c'est pas mal.
C'est déjà sympa. Mais 3000 personnes, ça fait un petit stade de foot, quoi.
Ouais, c'est pas mal. C'est extraordinaire. Combien de personnes travaillent chez Rocket School, tes collaborateurs ?
Là, on est une centaine à peu près.
Vous voyez en remote, en télétravail, de temps en temps, ou vous faites des séminaires ?
Alors, comme on est une école, on a des campus physiques, donc on est sur 10 campus en France.
Ouais. C'est pas une école en ligne.
C'est pas une école en ligne. Ouais. On peut parler du sujet des écoles en ligne, je suis pas 100% favorable, enfin, ça dépend des profils. Mais oui, non, c'est physique, on a des cours en ligne, bien entendu. Et donc les collègues, on les voit, donc moi je vois les Parisiens, ensuite moi, forcément, avec mon rôle, je fais le tour des campus.
Ouais.
Et entre nous, on bosse à distance. Et on a mis en place une approche un peu de décentralisation. C'est-à-dire qu'on a voulu éviter d'avoir tout le monde à Paris.
Ouais.
Les services généraux, on en a à Nantes, on a la partie admin, on a toute une partie marketing, acquisition qui est à Lyon, on a notre direction pédagogique qui est à Toulon. Et vraiment, l'idée, c'est de voir où sont les talents et de les laisser, de rayonner un peu partout, quoi.
Excellent. Avant de parler de l'école du STAV, un modèle que j'aime beaucoup, c'est quoi tes ambitions avec Rocket School ? Si tu te projettes Rocket School à 5 ans, c'est quoi ?
Alors globalement, en 2018, quand on a lancé le projet avec Jérémy, mon associé, on s'est dit dans 10 ans, on veut faire une boîte qui forme 10 000 personnes par an. Et là, on est dans les clous. entre Rocket School et l'école Gustave, on va former 2000 personnes par an. Et donc l'objectif pour Rocket School, c'est de passer de 1500 à 5400 personnes. Bon, c'est assez détaillé, je t'ai dit, on aime bien la data.
Ouais.
Après, si ça se trouve, ça va un peu évoluer. Mais ce qui est assez marrant, quand on regarde derrière, c'est que tous les chiffres qu'on avait annoncés, que j'avais posés avec Jérémy, bah, finalement, on est dans les clous. Et quand j'y repense, on était, bah là c'est marrant, on est à Station F, notre premier loco était à 500 mètres par là-bas. Ouais. Et quand j'avais annoncé, on formera 1500 personnes par an dans 4 ans, quand j'avais énoncé ça après un an d'existence, je me rappelle mon responsable pédagogique, je l'avais vu lever les yeux au ciel, genre ça y est, il a fumé de la moquette, Cyril, il est parti ailleurs. Et en vrai, bah, le job, on le fait. Et donc l'idée, c'est de continuer à développer, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin en France d'avoir une...
On a un petit problème d'enregistrement.
C'est reparti, Cyril, on discutait... On allait faire la transition avec l'école Gustave, que tu as fondée, co-fondée aussi, je crois, non ?
Ouais, tout à fait.
Ouais.
En fait, l'idée, c'est de partager un petit peu ces projets entrepreneuriaux. Et sur l'école Gustave, on a fait la rencontre de Marie Blaise, qui est notre associée maintenant, qui avait un petit peu le même type de projet. Et on s'est dit que ça avait du sens de le faire ensemble. Et depuis, elle incarne très bien le projet. L'école Gustave, c'est quoi ? C'est la même méthode, mais pour un autre métier qui est en énorme pénurie, encore plus. Je vous disais, il y a 52 000 projets de recrutement sur des commerciaux. Et bien dans le BTP, il y a plus de 200 000 projets de recrutement. Et 3 employeurs sur 4 disent qu'ils galèrent à recruter. Donc il y a un énorme besoin, donc un énorme potentiel de reconversion et de projet social. Donc on a lancé l'école Gustave, on forme des plombiers, des électriciens, des couvreurs sur le même mode de recrutement, sur l'envie, sur la personnalité. Alors on n'a pas mis en place Assess First parce qu'on est sur des profils qui sont moins digitalisés. Mmh. Et surtout ce qu'on regarde, c'est qu'ils ont envie de bosser, qu'ils sont prêts à se lever à 6h du matin. Et ce qui est génial, c'est qu'on va aider une autre catégorie de population, des gens qui sont peut-être plus éloignés de l'emploi, qui n'ont pas forcément de diplôme de Bac plus 3, plutôt des gens qui étaient réfugiés, qui se sont un peu perdus à l'école, qui n'ont pas forcément été aidés. Et ben, tous ces gens-là, on leur permet d'aller chercher un diplôme et de trouver du boulot.
Mmh. Et plutôt que de travailler au black, par exemple.
Bah, plutôt que de faire mal au black, c'est-à-dire d'avoir les bonnes pratiques. Et potentiellement, s'ils se débrouillent bien, ce qui est cool, c'est que derrière, ils peuvent se mettre à leur compte. Un plombier, si tu es un peu malin, tu vas chercher 5000 balles par mois. Hein.
Ouais.
Donc, c'est des beaux métiers.
Dans quelle ville, du coup, tu as ouvert l'école Gustave ?
Alors, Gustave, on l'a ouvert à Saint-Denis, Paris, donc dès le début, donc il y a 3 ans. On a ouvert à Lille, et là, on ouvre à Bordeaux, à Marseille et à Lyon pour la fin d'année et début d'année prochaine.
Pour financer Gustave, en tant que candidat, on est toujours sur un partenariat avec Pôle emploi. Comment ça se passe ?
Tout à fait. Même modèle. On veut faire une école qui soit d'excellence et inclusive. Et donc, on ne veut pas faire payer les participants. Mmh. C'est un parti pris. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas aller facilement à l'international. Parce qu'en France, on a beaucoup de chance. On a des financements. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans la très grande majorité des pays. Mmh. Et donc, même modèle pour l'école Gustave. Un financement partagé entre les entreprises et Pôle emploi.
Et est-ce que si moi, en tant que candidat, je vais voir mon conseiller Pôle emploi, est-ce qu'il peut me recommander soit Rocket School, soit l'école Gustave ? Est-ce qu'il y a des passerelles comme ça qui se créent entre différents organismes de formation, finalement ?
Alors, quand tu vas voir ton conseiller Pôle emploi, le truc, c'est qu'il y a tellement de métiers, d'organismes de formation que ce n'est pas forcément évident qu'ils connaissent.
Ouais.
La chance qu'on a, c'est que sur Rocket School, ils commencent à nous connaître un petit peu, Pôle emploi, parce qu'on a 3000 personnes qui sont passées par là et un taux de retour à l'emploi qui est 96%, donc qui est vraiment énorme. Mmh. Par rapport à ce qu'ils ont d'habitude. Et donc, ils peuvent t'aider. Mais ta question me fait penser à un truc qu'on met en pratique chez Rocket et que j'aime bien. C'est que si tu viens et tu postules pour être commercial, mais que tes tests de personnalité nous disent « En vrai, tu serais peut-être un meilleur en CSM. Ouais. Parce que tu as la personnalité d'un CSM. » Eh bien, on va te rediriger. On va te dire « Bon, commercial, ça ne va pas trop le faire. » Mais on te conseille CSM, est-ce que ça te dit d'en savoir plus ? Donc on aide un peu à la reconversion. Et dans mon rêve idéal, c'est que j'ai suffisamment d'offres de formation pour être capable, pour une personne qui rentre, qui passe des tests, de l'aider dans son orientation.
À se positionner.
Ensuite, entre Gustave et Rocket, c'est vrai qu'il y a quand même un fossé entre les deux. Mmh. Ça pourrait, parce qu'on a quand même des gens qui ont déjà des Bac plus 3, des Bac plus 5, qui font Gustave, mais ça reste une minorité. Mmh.
Et les modalités d'accès à l'emploi chez Gustave, c'est tu fais ta formation, derrière tu prends un CDD, CDI, est-ce que tu as du stage immersif, est-ce que tu as de l'alternance ?
Alternance, pareil. Donc on a un titre professionnel de plombier, un équivalent du CAP. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas le droit de te mettre à ton compte si tu n'as pas un titre professionnel ou une certification, ce qui permet d'éviter d'avoir des plombiers qui s'inventent plombiers et qui ne savent pas faire le boulot, quoi.
T'as un peu de concurrence du coup sur ces modèles-là ?
Alors, sur le modèle des écoles de commerce, oui, parce qu'il y en a plein et qu'une école de commerce, dans les yeux du commun des mortels, l'une vaut l'autre. Dans les métiers du bâtiment, ce qui est bien, c'est qu'au royaume des aveugles bornirois, on est premier sur Google sur école de plomberie.
Ah, vous avez fait un travail
on a
SEO.
On a fait zéro travail. T'imagines le niveau qu'il y a en face de nous. École de commerce sur Rocket School.
Un petit hack, là.
Jamais aucune chance de passer premier.
Ouais.
Mais école de plomberie sur Google, on est premier, ce qui est juste ouf.
Ouais.
Mais parce qu'en face de nous, on a des gens qui sont allergiques au numérique, qui sont un peu vieillots, parce qu'avant, c'était un peu réservé à l'État, au CFA d'État, etc. Mm-hmm. Ça a été ouvert il y a quelques années. Et tant mieux, parce que du coup, ça met un petit peu de concurrence. Et ça nous permet de rabattre les cartes. Mm. On a plein de CFA en face de nous, ils nous disent « j'arrive pas à remplir mes classes ». Nous, on a trop de candidats. Il y a peut-être un problème quelque part, posez-vous
Google,
des questions. Quoi. Mais pas que les résultats Google. Il y a c'est très vieillot, c'est des secteurs qui sont pas remis en question. Ouais. C'est comme ce qu'a fait Xavier Niel avec Hectare, l'école qui va former des agriculteurs et... Et c'est beaucoup plus sexy d'aller chez Hectare que d'aller dans un CFA un peu vieillissant, quoi.
Ouais, vous avez mis un peu des paillettes sur des métiers finalement pas les plus séduisants sur le papier alors qu'on fait des très belles carrières.
On essaye de les valoriser. Ouais. Et puis le côté, en fait, ils arrivent chez Gustave et de la même façon qu'ils prennent leur téléphone chez Rocket, chez Gustave, au bout d'une semaine, ils vont faire de la soudure, ils créent des choses. Et d'ailleurs, dès le premier jour, quand tu viens chez Rocket et Gustave, tu mets les mains dans le cambouis. À Rocket, tu vas visiter des entreprises, tu vas parler avec des gens qui sont dans le métier, donc tu sors du campus. Et chez Gustave, le premier jour où tu arrives, tu vas découper, alors pour l'instant, des tuyaux en plastique que tu vas remettre pour faire un vrai boulot.
Et là, ça fait beaucoup de projets tout ça, Cyril.
Ah oui, c'est sympa.
Donc là, c'était deux activités principales, si je ne me trompe pas.
Ouais, j'ai d'autres activités. Avec un des fondateurs de Blablacar, on a créé, donc Francis Nappé, on a créé TechRox, qui est un groupe de CTO. Donc on a 3000 CTO. Alors j'avoue que je ne suis pas très, très actif, mais j'aime bien garder ce contact avec la tech. J'ai une boîte qui s'appelle OpenSCA, qui fait de la formation informatique, qui est juste à côté.
D'accord.
J'ai investi dans pas mal de boîtes. Et je suis toujours prof et affilié à HEC au 1/5e.
Ouais.
Donc ça me prend un peu de temps, j'avoue.
Tu gardes ce rôle de prof à HEC parce que tu aimes bien toujours transmettre le côté pédagogique, tu aimes bien rencontrer les jeunes, même si tu en vois au quotidien chez Rocket School. Mais...
En fait, le risque qu'on a quand la société elle grossit, c'est le syndrome de la tour d'ivoire, de plus voir personne. Et chez Rocket, je fais le tour des campus pour chaque promo et je fais une conférence. Alors là, ça devient dur parce qu'on a 10 campus et 3 rentrées par an, donc ça me fait potentiellement 30 fois dans l'année aller là-bas.
Ouais.
Sachant qu'à chaque fois, il y a un apéro après, donc autant dire que mon foie n'est pas d'accord ou n'est plus d'accord.
Ouais.
Mais j'adore. Moi, c'est ce que j'aime, c'est être en contact avec les étudiants, les motiver, leur donner tout le savoir que j'ai, essayer d'en faire passer un maximum le plus rapidement possible. Et ça m'évite ce qu'on m'avait dit à Epitech. J'avais un étudiant qui était venu me voir une fois qui m'a dit « Cyril, tu es dans ta tour d'ivoire maintenant.
Ouais. »
Et c'est vrai que ça me manquait. Donc j'essaie que ça ne me manque pas chez Rocket.
Tu gardes les pieds... ancré au sol.
Ouais, pareil, l'autre jour, c'était tout con, mais tu vois, genre, j'ai fait la vaisselle pour toutes les équipes à Paris. Et en fait, je me suis dit, c'est pas parce que t'es CEO que tu dois te dire, c'est aux autres de faire le petit boulot de merde, entre guillemets. Non, t'es une communauté. Et je trouvais ça beaucoup plus important, tu vois, je l'ai partagé à personne. J'ai pas dit, regardez, je suis allé faire les trucs. J'ai fait le job. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont vu.
Ouais.
Et de voir que ton CEO, il fait aussi le job, je trouve que c'est important.
Ouais. Tu vois, ça me rappelle un job d'été où j'étais sur le chantier, le conducteur travaux ou l'architecte, je ne sais plus, il prenait le balai.
Ah, très important.
Et je peux te dire que ça motive aussi les équipes à prendre le balai.
Bah, ça te montre, ouais. Et au tout début, quand on a lancé Rocket, tu disais tout à l'heure, on n'a pas fait de levée de fonds, bah, au début, on faisait gaffe à tout.
Ouais.
Juste pour économiser le prix de papier, pour d'essuie-mains en papier, et ben, on avait acheté des serviettes chez Ikea, et avec mon associé, deux fois par semaine, on les récupérait, on les lavait, les 60 micro-serviettes, et on les ramenait. Et les chiottes, c'est nous qui les nettoyons. Parce qu'au début... Bah, un franc, un sou est un sou, hein, c'est ce que disait Picsou.
Ouais.
Et il faut faire gaffe à tout au début. Ouais. Maintenant, bon, bah, on a un peu plus de largesse financière, donc on fait plus forcément tout ça, mais je trouve ça important.
Ouais, c'est une bonne ADN, je trouve, de rester un peu frugal, parce qu'on ne sait jamais comment... Parce que si demain, ça repart, si la situation économique change, et la boîte se porte peut-être un peu moins bien, dans la vie d'une entreprise, ça peut arriver, bah, ça sera peut-être moins douloureux de repartir sur les fondamentaux que d'encaisser.
Le côté frugal, c'est ce que je dis à mes étudiants d'HEC, c'est quand tu commences ta carrière, si tu fais une belle école, bah, tu vas vite avoir des beaux salaires. Et moi, des gens qui ont 40 ans, qui gagnent 150, 200 000 euros par an et qui sont malheureux dans leur job, qui sont dans une cage dorée, j'en ai vu plein.
Ouais.
Et créer ta boîte, ça ne va pas si tu es habitué à vivre avec 100 000 euros.
Non.
Donc, il faut être frugal le plus longtemps possible et cette frugalité dans tes dépenses personnelles te permettra en fait d'avoir une liberté professionnelle.
Mmh.
Et Fred Mazzella, quand il avait lancé Blablacar, au début ça ne marchait pas, ça a mis 10 ans, on ne sait pas. Et souvent il disait à ses investisseurs qui lui disaient « Votre truc ça ne va pas marcher, ça va mettre des années. » Il disait « Je m'appelle Fred Mazzella avec mon nom, je suis capable de bouffer des pâtes pendant 10 ans, mais j'attendrai que ça arrive. »
C'est vrai que je me souviens de cette punchline, j'avais vu.
Voilà, je trouve ça c'est important d'être frugal. Bon, je file plein de conseils un peu à droite à gauche, mais...
Non, c'est intéressant parce que tu as quand même maintenant une sacrée expérience. J'ai deux dernières questions avant de clôturer le podcast. La première, c'est concernant l'alternance. Sur l'avenir de l'alternance, ça bouge pas mal. Alors, on a eu l'aide de l'État, on a diminué l'aide de l'État. Beaucoup d'écoles maintenant sont passées sur le modèle de l'alternance. Toi, tu vois les choses comment C'est quoi l'horizon Comment tu vois les choses, Cyril ?
Il faut avoir deux trucs en tête. Le premier, c'est combien coûte une année à la fac ? Une année à la fac coûte aux contribuables entre 9 et 13 000 euros par an. Une année en alternance, nous, on est financé 7 000 euros par l'État.
Mmh.
Et on a 96% de retour à l'emploi. Donc pour moi, le modèle de l'alternance est un modèle qui est très, très, très efficace. Et je ne critique pas du tout la fac. Hein,
public,
mais ce que je veux dire, c'est que... À chaque personnalité, il faut une solution. Et l'alternance est moins chère, en tout cas pour l'État, pour permettre à des gens d'aller chercher du boulot. Donc ça, déjà, il faut le savoir.
Mmh.
Le gouvernement pousse pour avoir 1 million de personnes en apprentissage. Moi, je trouve que c'est très bien. On a toujours dit le modèle allemand, il est génial.
Mmh.
Le modèle français, il est très théorique. Bah oui, tu peux faire des études très théoriques. Et c'est très bien de brainstormer, de bosser. Mais c'est aussi, pour beaucoup... très bien d'avoir une solution où bah, tu as la main dans le cambouis, tu fais des choses, tu es opérationnel, tu gagnes vite de l'argent, enfin de quoi vivre. Et je trouve que c'est très bien. Le gouvernement a mis en place, il y a 2 ans, ils ont un peu augmenté les financements de l'apprentissage, à la fois avec des aides qui ont diminué. Et nous, en tant qu'école, le coût de financement était un peu plus élevé. Cette année, ils viennent de baisser de 10%. On sait qu'ils vont encore baisser l'année prochaine. Et à la limite... Je pense qu'on va y arriver, c'est pas un problème. Mais il y a pas mal de choses à faire. Ça va bouger, mais ça va pas casser le modèle. Et le gros pari, ce sera le jour où il n'y a plus ces 6 000 euros d'aide pour les gens qui sont en alternance. Je pense que ça va être plus compliqué pour les boîtes. Parce qu'en vrai, en alternance, c'est quand même cher. C'est quelqu'un que tu payes 80% du SMIC, voire le SMIC, qui est chez toi 3 jours par semaine.
Et en plus, tu mets des ressources et du temps à le former.
Et en plus...
Il est là aussi, pour
que tu le formes. Il n'est pas, à part s'il sort de Rocket, il n'est pas opérationnel le premier jour.
Le petit clin d'œil.
Ça faisait partie de notre baseline, opérationnel le premier jour.
Ouais. Non, mais c'est vrai que si tu es bien formé sur les métiers du commerce, des ventes, ne serait-ce que de prendre le téléphone en arrivant dans une entreprise et caler quelques rendez-vous, au-delà d'aller sur tout le cycle de vente, faire des démonstrations de produits, aller gagner un contrat, mais ne serait-ce que de faire des rendez-vous, c'est un peu la base.
C'est un peu
Parce que si on veut augmenter son chiffre d'affaires, finalement, il faut peut-être déjà augmenter son nombre de rendez-vous. C'est comme un candidat, s'il veut trouver un travail, peut-être qu'il a juste à augmenter son nombre d'entretiens et il trouvera plus facilement un travail.
C'est ça. Bon, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'au début, on te forme sur non pas tout le métier, mais sur le métier utile. Donc ceux qui font Rocket en commerce, ils arrivent chez toi, ils savent créer des listes de cibles, trouver les emails, trouver les numéros, prendre leur téléphone, apprendre appeler et prendre un rendez-vous. Ça s'arrête là. Ils ne sont pas capables de faire de négo, de mapping, etc. Et ça, ils le verront après. Comme ça, ils sont utiles tout de suite.
Et simple curiosité, vous les formez sur... Vous leur faites créer un script téléphonique ou...
Ouais, on leur fait créer des scripts. Plutôt sur de la qualification du scoring plutôt que de la vente. D'abord qualification scoring, ensuite prise de rendez-vous.
D'accord.
Après, on va pas se mentir, au début, quand ils font ça, ils font n'importe quoi.
Ouais, bien sûr.
Mais on est sur un apprentissage où tu te prends un mur et ensuite
puis
on t'explique pourquoi tu t'es pris le mur.
Et vous réécoutez certains appels.
On réécoute et on.
Ouais, c'est amusant. Mais il y a un côté gamifié, il y a un côté jeu qui est.
Ouais, on gamifie à fond parce que sinon c'est un peu dur. Ouais, et puis quand ils ont des trucs super durs, genre après 2 jours de phoning, on leur met une demi-journée, genre ils vont faire un escape game, ils ont du théâtre d'impro, un truc où genre juste tu relâches.
Souffler un peu,
parce que sinon tu meurs.
Ouais, c'est du sport de haut niveau. Petite question bonus. Un candidat, quelqu'un qui sort de Rocket School qui cherche un CDI, quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne ? Au-delà de la méthode, de tout son apprentissage en passant par ton école.
Alors, moi, ce que je trouve important, c'est de se projeter. C'est-à-dire qu'un CDI, c'est pas juste du court terme. C'est qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans. Et supposons que dans 10 ans, tu dises, moi, je veux être directeur commercial d'une multinationale. Ça veut dire que potentiellement, dans 8 ans, tu dois être directeur commercial d'une start-up. Parce que ça va peut-être les faire rêver.
Ouais.
Donc, si tu veux être directeur commercial d'une start-up dans 8 ans, ça veut dire que dans 6 ans, tu dois être account executive. Donc, dans 4 ans, tu dois être là. Dans 2 ans, tu dois être là.
Ouais.
Donc, déjà, tu te fais ton plan de carrière.
Ouais, ça,
sinon, la vie est un long fleuve tranquille. Ça ne te mettra pas 10 ans, ça te mettra 15 ans ou 20 ans. Voire, tu n'y arriveras pas.
Tu ne prendras jamais les rames.
Voilà, c'est ça. Donc déjà, de bien se projeter. Après, il y a des questions à se poser. Si tu veux faire de l'argent, est-ce que c'est un gros focus ou pas ? Si c'est un gros focus, faut que tu vises des boîtes qui font de l'argent.
Ouais.
Si tu vises une asso qui gagne 3 francs 6 sous, elle ne pourra pas te payer. Donc, à toi de définir. Et attention, l'argent n'est pas forcément le critère privilégié. Enfin,
tous les commerciaux.
Si tu te dis, moi, je veux juste gagner mes 3000 balles par mois ou 4000 et faire 40 heures, parce qu'on ne fait pas 35 heures, faire 40, 45 heures, mais avoir le temps le week-end de rentrer chez moi, de voir mes gamins, etc., c'est très bien. Par contre, si tu te dis, je veux gagner 150 000 euros, comme c'est le cas de certains de nos anciens, n'y a pas de mystère. Tu bosses jour et nuit, tu es à bloc, etc. Et tu vas peut-être faire ça pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, et puis après, tu seras très élevé. Et là, tu décideras de lâcher prise. Mais à toi de voir, en fait. Mon conseil, c'est de se projeter à 10 ans et de se dire, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux faire ?
Ouais, c'est un exercice qui peut être compliqué pour certains, mais amusant pour d'autres. Et je pense que, effectivement, d'avoir un projet professionnel, un petit plan de carrière déjà, c'est rassurant et on sait à peu près où on va. Ouais. C'est un bon conseil.
Bon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas évident, c'est qu'à 20 ans, c'est super dur de se projeter aussi loin. Quoi. Mais quand tu es sur une phase de reconversion à 25-30 ans, là, tu vois, typiquement, tu as ton projet, mais si tu n'avais pas ton projet, tu pourrais dire où est-ce que je me projette, comment je fais pour y arriver, et tu te définis les étapes. Quoi.
Et puis en plus, tu fais des belles rencontres avec tes camarades de classe chez Rocket School, j'imagine.
C'est ça.
Et
puis,
ils partagent les opportunités entre eux, ils s'entraident.
Il y a une très bonne ambiance et moi, j'adore cette ambiance.
On arrive au bout du podcast, Cyril.
Le Après futur, seulement 2h15 de discussion.
Non, je crois qu'on doit être autour de 45 minutes. Alors,
s'il reste des gens qui nous écoutent jusqu'au bout, vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn. Hein. On va tester.
Je crois qu'il y a certaines personnes qui font même des podcasts de 2-3 heures.
Ah ouais, c'est horrible.
Ça, il faut prendre...
Faut prendre
sa bouteille d'eau, son sandwich presque, et prendre le temps. La dernière question, du coup, c'est le futur, c'est maintenant. C'est quoi pour toi, Cyril ?
Le futur, c'est maintenant. C'est qu'il ne faut pas attendre pour s'impliquer. Il y a un moment, on a un monde qui est tel qu'il est, qui est quand même un peu dur, surtout en ce moment, je trouve. Et je pense que c'est... Moi, ce que j'ai adoré avec Rocket, c'est qu'on pensait être une petite goutte d'eau toute seule. Et on s'est aperçu qu'il y avait plein de petites gouttes d'eau partout et... On a reçu tellement de messages de gens qui étaient en poste ou qui disaient bah, « voilà, moi je suis en poste, mais j'ai envie de vous aider. Est-ce que je peux faire un Rex ? Est-ce que je peux faire quelque chose ?» On se rend compte qu'il y a une vraie dynamique qu'il faut agréger, qui n'est pas forcément évidente à agréger. Et je pense que tous, on doit avoir... alors peut-être que c'est le fait d'avoir 40 ans et d'avoir un gamin, mais je pense que le monde de demain, il passe par l'éducation et il ne faut pas attendre 15 ans, c'est déjà un peu compliqué. Donc, très important qu'on soit le plus nombreux possible à être impliqués pour un monde un peu meilleur demain. Ce sera pas manichéen, ce sera pas un monde parfait, mais si on sort, enfin si on c'est dire une expression très moche, mais si on s'en donne pas les moyens, on va pas si on s'en sort pas les moyens, on va pas y arriver. Donc s'il y a des gens motivés, n'hésitez pas, même je peux donner des
comment on te contacte,
sur LinkedIn c'est le plus simple, moi. D'accord. Je réponds à tout le monde, parfois faut relancer, mais n'hésitez pas si vous avez des projets, envie de parler, j'adore ça.
Merci Cyril, j'ai kiffé personnellement l'échange avec toi et j'espère que notre petite communauté pardon, également. A plus.
Merci beaucoup à tous.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.